France Inter.
Ce soir, comme je le disais à Eva Bester, une fois n'est pas coutume, je ne me trouve pas seul, mais en excellente compagnie, celle d'un homme qui a été à la source d'une des plus folles aventures du rock'n'roll de ces 50 dernières années, au carrefour du hard rock, du punk rock et de ce qu'on appelle depuis le metal en général. Allez, avant de lui donner la parole, je vous donne un indice.
Yeah.
Killed by Death, tué par la mort, la voix écorchée, reconnaissable entre toutes d'un des musiciens les plus attachants de l'histoire du rock britannique et du rock en général, Ian Kilmister, dit Lemmy, fondateur du groupe Motorhead. Et oui, alors il y a plusieurs raisons de célébrer ce soir la mémoire de celui qui nous a quittés il y a près de 10 ans déjà. Motorhead est en effet né il y a juste un demi-siècle, en 1975, et l'influence, l'héritage de ce groupe est aujourd'hui partout dans ce qu'on appelle le monde du metal, chez Metallica, qui a repris au moins 2 de ses titres, mais aussi parmi d'autres, hein, les Brésiliens de Sepultura et les Anglais de Napalm Death. Et puis au Hellfest, où nous allons nous rendre cette fin de semaine, eh bien, il y a un totem de Lemmy de 12 mètres de haut, comme un étrange Bouddha, hein, son torse d'acier planté sur d'étranges tiges. Et on le voit coiffé de son légendaire chapeau de cow-boy, dans une attitude typique, hein, les bras repliés pour redresser son col. C'est dire qu'on va tous se retrouver donc à l'ombre de Lemmy, hein, dans les jours qui viennent. Et on a beaucoup de chance. Ce soir, parce que j'ai en face de moi, dans ce studio, Lucas Fox, l'homme qui, en mai de l'année 1975, il y a 50 ans tout juste, alors un jeune batteur âgé de 22 ans, est celui qui a convaincu Lemmy de créer son propre groupe. C'est aussi lui qui a dessiné le célèbre graphisme du groupe en lettres gothiques. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Mishka, comment ça va ?
Bah, très bien, on est installé depuis une demi-heure, on se raconte plein de trucs, mais là maintenant on est dans le vif du sujet. Alors on a de la chance, Lucas vit à Paris depuis longtemps et il est parfaitement francophone. Il a suivi les cours du lycée français de Londres, il nous en parlera un peu. Il vient de publier un livre de mémoire très détaillé, très touffu, qui s'appelle Motorhead In and Out, entre autres histoires d'une vie exubérante, qui est parue chez l'éditeur Hors Collection. Alors In and Out, c'est une expression qu'en anglais peut signifier en un clin d'œil, en un rien de temps, à peine, c'est vrai d'ailleurs, vous êtes resté très peu de temps au sein du groupe, hein, à peine 6 mois, vous l'expliquez dans votre livre, vous n'avez pas tenu le choc, trop d'amphétamine, hein, de speed, hein, comme on disait, et c'est finalement un autre batteur, Phil Taylor, dit Filthy Animal, qui a pris votre place. Il est mort en 2015, il a tristement précédé votre copain Lemmy de quelques mois. 3 ans plus tard, en 2018, le guitariste Fast Eddie Clark a passé à son tour l'arme à gauche. Et puis un an après, Larry Wallace, qui avait été le tout premier guitariste de Motorhead, celui avec lequel vous et Lemmy avez créé le premier trio, est mort à son tour. Ce qui fait que vous êtes, si j'ose dire, le dernier poilu, hein, des débuts héroïques de Motorhead, le dernier témoin et survivant de cette aventure. La chose qui m'a le plus surpris dans votre livre de mémoire, c'est qu'en fait, c'est vous, Lucas Fox, qui avait persuadé Lemmy qu'il fallait qu'il crée son propre groupe, parce que lui, en fait, il y tenait pas vraiment, et vous dites qu'il était même sceptique, voire hostile à cette idée. Alors expliquez un peu nous ça.
Bah, disons, c'est pas. On était à 3, pour être absolument honnête. Il y avait moi d'un côté, il y avait Irène qui m'avait introduit à Lemmy en août 1974, donc quasiment un an avant.
C'était qui Irène ?
Irène, c'était une copine à moi, on sortait ensemble et on était devenus vraiment âmes sœurs, donc on traînait beaucoup ensemble, genre les 400 coups comme on dit, et aussi le manager Doug Smith, donc tous les trois sans se concerter, chacun avec notre angle. Nous avions eu un peu marre de Lemmy qui se plaignait et qui voulait absolument rejoindre Hawkwind.
Oui, le groupe dont il avait été éjecté, ça, on va en parler de Hawkwind, ça c'est très déterminant, on racontera aussi dans quelles circonstances, et donc il était, pourtant il avait ce talent, c'est lui qui avait chanté un tube, le seul tube de Hawkwind, on va l'entendre, et pourquoi était-il aussi rétif à l'idée de créer son propre groupe ?
Faut se mettre à l'intérieur du groupe de Hawkwind, par exemple, ou Pink Fairies, ou beaucoup des groupes de l'époque ou même de maintenant. C'est très difficile à gérer. Et être le leader d'un groupe, c'est pas facile. Et donc, pour lui, ça lui a jamais traversé l'esprit d'être le leader d'un groupe, et pas non plus d'être le chanteur principal. C'était pas dans ses gènes.
Et comment vous l'avez convaincu ?
Bah, grosso modo, c'était moi, de mon côté, en disant, attends... ça suffit là, avec ton négativité, Hawkwind ne va jamais te reprendre. De l'autre côté, Doug Smith disait, Hawkwind ne va jamais te reprendre, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, ils ne vont jamais te reprendre. Ouais. Et Irène de son côté, attends, ça suffit avec ton négativité, tu as un seul mot dans la bouche depuis que tu es revenu, c'est bastard, 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 appelle ton nom, crée ton propre groupe.
Et vous voulez l'appeler Bastard.
Et appelle-le Bastard, qui n'a pas duré plus d'un jour. Hein.
Ouais. Bon, alors, vous avez mentionné Hawkwind, bah, ça tombe bien, parce que j'ai un souvenir personnel. Je suis un peu plus jeune que vous, Lucas, j'ai 5 ans de moins. Figurez-vous qu'à l'âge de 12 ans, entraîné par mon grand frère, je suis allé à un festival qui se tenait en Angleterre, en pleine cambrousse, à l'ouest de Londres, hors de Maston, et j'ai vu Hawkwind. Oui, honnêtement, j'ai un souvenir en grande partie très flou, c'était pour moi assez soporifique hein, comme musique, à part qu'il y avait une danseuse à poil. Bon, alors évidemment, ça m'a fasciné, mais enfin bon, j'étais assez loin. Et puis, à un moment, j'ai distingué un chevelu dans le groupe qui s'est avancé sur le devant de la scène, et soudain, je me suis réveillé comme en sursaut. Tout le monde s'est réveillé d'ailleurs, et c'était Lemmy qui chantait Silver Machine, qui a été en 71 donc l'unique tube du groupe Hawkwind. Un groupe passionnant dans lequel il s'était fait remarquer. On écoute Silver Machine et on reparlera tout à l'heure de Hawkwind parce que c'est un groupe aussi passionnant que méconnu. We'll be right back. tube du groupe londonien Hawkwind, Silver Machine, interprété par Lemmy en 1971, donc 4 ans avant qu'il fonde le groupe Motorhead. Hawkwind, alors c'était un groupe tout à fait unique en son genre, on y reviendra. Alors vous savez, quand j'étais jeune, on disait du rock que c'était une musique de drogué. Dans le cas de Hawkwind, alors je ne sais pas si Lucas Fox, qui a été le meilleur ami de Lemmy et qui a donc fondé Motorhead avec lui, je ne sais pas s'il me contredira sur ce point.
Absolument pas, c'est bon. Absolument la vérité.
Bon. Alors quels souvenirs vous avez de cette période? Parce que vous dites qu'ils étaient dans un sale état quand ils ont enregistré cette chanson Hawkwind.
Ce qui était à peu près normal pour Hawkwind, c'était prendre de l'acide régulièrement et fumer des joints toute la journée.
D'où est-ce qu'ils sortaient, ces musiciens?
Un peu de partout, vraiment. Déjà, c'était musical chairs, quelque part, des chaises musicales en ce qui concerne qui était dans le groupe. Il y a des permanents comme Dave Brock qui était le chef quelque part. Et petit à petit, ça s'est consolidé.
Des hippies ou...
Ah oui, absolument, ouais. Des hippies. Dave Brock de la campagne du Devon et le reste, plutôt de Notting Hill, de notre quartier à Londres.
Et qui était un quartier, à l'époque, qui n'était pas du tout gentrifié comme aujourd'hui.
Enfin, non.
Ça ressemblait à quoi, la Brock Grove, Notting Hill, à l'époque?
Disons un bloc de 100 mètres par 100 mètres, il y avait 600 squats.
Ah ouais.
C'était un des quartiers les plus pauvres de Londres depuis le 19e siècle, ouais. Déjà.
Et ça n'avait pas beaucoup changé depuis Dickens, c'est ça?
Exactement ça. Et que c'était un endroit insalubre. Et là-dessus, il y avait aussi le quartier, dans le quartier de Notting Hill, il y avait le frontline jamaïcain. Oui. Donc le centre jamaïcain de Londres avec Brixton, les deux centres. Et avec Bob Marley dans le coin, qui a un peu plus tard a enregistré Exodus, etc. et Island Records. Et il y avait la plus grande densité de musiciens et de groupes formés au monde dans ce petit quartier de 1 km².
Qui sont les groupes les plus connus, à part Hawkwind, qui sont sortis de là?
Pink Floyd, par exemple, qui m'ont produit quand j'avais 20 ans dans WHPS Band.
Lors de tes débuts,
absolument,
de batteur.
À l'âge de 20 ans, absolument. Plein d'autres. Free était basé là.
Paul Kossoff et Paul Rogers, avant Bad Company.
Avec le magnifique Kossoff, Paul Kossoff.
Immense guitariste qui est mort trop tôt.
Et magnifique guitariste avec un goût sublime. Donc, et tout le reste, en fait, tous les autres groupes, sans même parler de quelques 6 mois après nous, le moteur. Red, première version, 6 mois après, c'était aussi tous les punks du coin, les Damned, les Clash, Brian Ferry, Roxy Music, enfin tous ces groupes-là. C'était un des centres musicaux du monde, quoi.
Alors on revient donc à ce qui a été au fond presque, on peut dire, le noyau de Motorhead, qui était Hawkwind. Puisque d'une certaine façon, il y a une partie de la musique de Hawkwind, enfin moi c'est un peu ce que je perçois, qui est passé chez Motorhead. Le côté psychédélique et répétitif auquel on n'associe pas nécessairement Motorhead est quand même présent dans les débuts.
Et aussi, l'autre partie, c'est Larry Wallis, qui était dans Pink Ferries, qui était quelque part l'âme sœur ou le groupe frère de Hawkwind. Ils ont même joué ensemble sur la même scène, avec Pinkwind.
Mais c'était plus rock'n'roll, Pink Ferries.
Oui, oui,
c'était
tout à fait.
Inspiré par les MC5 de Détroit.
Peu moins space rock.
Oui, barré.
Moins barré, mais quand même des longs solos de guitare.
Bon, alors dans quel état est-ce qu'il était, l'ami, quand il a chanté Silver Machine? Comment ça s'est fait?
Ils l'ont enregistré au Roundhouse et tout le monde était sous acide.
C'était une grande salle de concert à Londres, oui.
D'ailleurs, la salle de concert, on a fait notre premier concert le 20 juillet 1975, donc dans 50 ans, il y a 50 ans. Et ils étaient tous sous acide, inclus Lemmy. Et donc, ils ont trouvé ça ingénieux d'enregistrer ce concert-là.
Oui.
Et donc, le soir même, ils sont allés dans le studio pour écouter ce que ça donnait à Morgan Studios dans le coin. Et ils ont trouvé que ce que Bob Calvert, qui est un des chanteurs...
Et qui était également un poète.
Grand poète, quelque part. Et ce qu'il a fait sous acide, ça marchait absolument pas du tout. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on remplace la voix principale, les leads. Et ils ont passé, pendant des heures, chaque membre d'Hawkwind a essayé de le chanter. Et Doug Smith, régulièrement, revenait à la charge en disant, il faut absolument essayer Lemmy. Et tout le reste disait, ah non, surtout pas lui. Et donc, finalement, et ils avaient plus de membres qui n'avaient pas essayé. Finalement, ils ont dit, allez Lemmy, vas-y. Et Lemmy l'a fait d'un trait, et c'est ce qu'on entend sur le tube.
Voilà. Alors, honnêtement, enfin, tout le monde ne le sait pas, honnêtement, je l'ai peut-être su, mais je l'ai oublié. Mais en 75, il y a une chanson signée par Hawkwind et qui s'appelle Motorhead. Et c'est assez curieux, il y a quelque chose dans son style qui annonce, d'une certaine façon, le groupe Queens of the Stone Age. Bon, alors, si on retire le violon un peu free de la fin, qui peut faire penser au Roxy Music des années 74-75, quand il y avait Eddie Jobson, ben ça fait beaucoup penser à ça. On va l'écouter, ce titre, Lucas Fox, et vous allez nous dire après ce que ça vous inspire. Motorhead, c'était un titre signé non pas par le groupe Motorhead, mais par le groupe Hawkwind en 75, groupe dans lequel Lemmy a fait ses débuts, enfin connu, il a eu d'autres groupes avant, mais ça c'est un peu la préhistoire. Avant d'être chassé de Hawkwind d'une manière assez violente, je rappelle que je suis en compagnie de Lucas Fox, le batteur qui a su convaincre Lemmy de créer un groupe du même nom, Motorhead. On en a parlé tout à l'heure. Alors donc ce nom Motorhead, c'est parce que vous connaissiez cette chanson, c'est ça ?
Pas seulement, c'est devenu une évidence quand oui. Bastard, que Lemmy voulait appeler oui. le groupe Bastard, qui n'est pas possible de marcher sur la BBC,
oui.
même aujourd'hui à mon avis,
oui.
et donc c'était évident qu'il fallait un autre nom, et donc Lemmy a choisi Motorhead tout simplement, mais je me souviens très bien le moment où Motorhead a été choisi comme face B du dernier 45 tours qu'il a enregistré avec Hawkwind. Et phases oui. A, c'était Kings of Speed.
Oui.
C'est quand même assez ironique que Kings of Speed, avec oui. la phase B, Motorhead, qui veut dire amphétomane.
Oui, c'est, oui parce qu'il est vite passé du LSD aux amphétamines, l'ami.
Bah, lui, il était déjà sous les amphétamines depuis facilement 4-5 ans
ah,
avant.
Oui. Ah oui, et même avant. Oui,
ah
avant.
Oui, bien avant. Et c'était le seul à prendre des amphétamines.
Et vous aussi, Lucas ?
Ah oui, absolument. C'était, oh. c'était quasiment plus que nécessaire, disons. C'était obligatoire.
Mais obligatoire pour faire ce genre de musique, vous voulez dire ?
Obligatoire pour Lemmy, pour être dans l'entourage de Lemmy, c'était obligatoire.
Ah oui, sinon il ne vous acceptait pas.
Bah, plus que ça, mais moi j'étais jeune, j'avais 22 ans, enfin oui. 21 ans oui. quand je l'ai rencontré, il avait 28 ans, donc on avait 7 ans d'écart.
Ah quoi. Oui, oui bah, c'est très important, vous étiez le gamin.
Oui. Bah oui, et oui, j'étais, oui, j'étais le gamin utile avec une voiture. Donc,
ah oui, moi, oui, la, moi, comment vous The Fridge, vous l'appelez.
The Fridge,
voilà,
c'est, magnifique le frigo. Voiture, le frigo, absolument.
Oui, oui. Alors, Lucas, il y a tout un folklore autour de la personnalité hein, de Lemmy, sa dégaine, justement sa consommation frénétique d'amphétamines, sa fascination purement esthétique, hein, je le précise, pour les insignes de la Wehrmacht et des bataillons SS. Hein. Mais je voudrais qu'on mette ça de côté un moment et qu'on parle de musique. Mmh. Il y a ce jeu de basse très particulier qu'on entend déjà hein, dans ce titre Motorhead, signé par Hawkins en 1975, un jeu qui fait de la basse un instrument de premier plan, joué en accord avec un ampli poussé à fond. À ma connaissance, personne n'avait fait ça avant lui. Est-ce que c'est ça qui vous a convaincu que c'était, pour dire, le bon cheval sur lequel miser, que c'était vraiment quelque chose de nouveau ?
Je reviendrai un poil en arrière, c'est-à-dire ouais. que déjà Lemmy et moi écoutaient on a traîné ensemble depuis août 1974 jusqu'à mai 1975,
oui.
où je l'ai cherché quand il était viré de Hawkwind.
Alors on rappelle brièvement comment il a été viré de Hawkwind, parce que vous connaissez l'histoire mieux que moi.
Ah oui, bah, alors... j'ai été le premier à l'entendre.
Ah bon ?
Bah oui, je l'ai cherché à l'aéroport après qu'il a été viré.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, il a essayé de traverser la frontière canadienne, qui était la pire frontière au monde en ce qui concerne les contrôles de drogue, et il oui. a essayé de traverser la frontière avec des amphétamines dans son slip, ce qui n'était pas un peu con. Ce qui a fait qu'il a été viré, mais oui. pas seulement parce que c'était...
Pendant la tournée donc, de Hawkwind, là-bas.
Ouais. Aux États-Unis, exactement. Mm, mm, mm. Mais là-dessus, quand même, c'était plus une surprise pour lui que pour moi, quelque part. Parce que il était sur une... Hawkwind vivait sur une autre planète que lui, mettons ça, les choses ainsi. Point de vue drogue, et aussi point de vue lifestyle, et aussi Lemmy était debout une soirée, deux soirées, de nuit, trois nuits, souvent quatre nuits, sans dormir.
Ah ouais.
Donc quand il dormait, il tombait comme une masse et c'est impossible de le réveiller. Donc ça aussi, ça
oui, donc
faisait partie du problème.
Vous demandez au fond comment, par quel miracle, il restait aussi longtemps au sein du groupe, quoi.
Quelque part, mais il était fabuleux, il était magnifique sur scène, et son de basse, pour revenir
oui.
à la question.
Alors comment est-ce qu'il l'a trouvé ?
Bah, quelque part, c'est John Entwistle qui est un des plus grands influences là-dessus, avec My Generation déjà,
oui.
qui était un lead bass,
c'est
donc
vrai.
Bass lead, et aussi Boris the Spider, le,
oui,
le fabuleux.
Titre The Who, dans The Who Sell Out.
Avec le son hallucinant, et,
oui.
et Lemmy et moi, juste après qu'il soit viré, et au moment même où on a créé le groupe, on écoutait justement Boris the Spider,
oui.
My Generation, etc. Et c'est là où il voulait changer le micro sur sa basse,
oui.
et augmenter...
Qui était Rickenbacker.
Rickenbacker, absolument. Et augmenter la puissance de l'ampli aussi.
Oui, c'est ça, parce que quand même la particularité, c'est que le son est totalement saturé. C'est-à-dire qu'on voit une vidéo de lui sur YouTube, il dit, bon, bah, la plupart des bassistes, ils jouent comme ça, alors il fait plong, 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 comme ça. Et puis, mais moi, je joue comme ça. Et on le voit, il tourne tous les boutons au maximum, c'est un peu comme dans Spinal Tap, il met tout à 11.
11,
quoi.
Exactement.
Oui, c'est,
ouais.
c'est ça.
Sauf que c'est pas aussi accidentel que Spinal Tap.
Alors
c'est vraiment, c'est très précis,
oui.
le son qu'il a trouvé,
oui.
a travaillé. Donc,
mais on dit que c'était par hasard, parce qu'on lui avait donné une basse à un moment, et que lui, il savait pas en jouer, qu'il était guitariste, et que donc il a joué de la basse comme d'une guitare, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix.
Oui, comme beaucoup de choses dans la vie,
ouais.
C'est arrivé par accident qu'il est devenu bassiste Hawkwind. Et il avait,
oui.
c'était un guitariste
c'est
rythmique.
Ça, c'est ça. Donc il a joué de la basse comme une guitare rythmique.
Voilà, et lead. Voilà.
Oui, voilà. Alors, on va écouter maintenant un titre d'un album qui s'appelle Ace of Spades, hein, qui est paru en 1980, et la chanson s'appelle The Road Crew. Ça décrit un peu votre courte vie avec Motorhead, en fait, sur un mode évidemment humoristique, parce que bon, il avait beaucoup d'humour, l'ami. Cette vie que vous n'avez pas eu la force ou l'envie de suivre, je sais pas. Alors je cite les paroles de la chanson. Encore une autre ville, une autre tôle, encore une autre fille, un autre visage. Je bouffe mal, je me sens pas bien. Encore une nuit, je deviens dingue. Ma copine se barre, ça me rend triste. Mais j'aime cette vie-là. Une autre bière, voilà ce qu'il me faut. Un autre concert, mes oreilles saignent. Une ode à la vie en tournée, enfin une certaine idée de la vie en tournée qui était peut-être pas la vôtre, Lucas. On écoute ça et on en reparle après.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
We Are The Road Crew, c'était Motorhead en 1980, c'est un titre extrait d'un album qui s'appelle Ace of Spades, et que certains ont pu considérer comme un des premiers manifestes de ce qu'on appellerait plus tard le thrash metal, le métal qui lamine. Alors je suis dans ce studio avec Lucas Fox, le batteur fondateur de Motorhead, qui a publié, comme je vous disais, un livre de mémoire extrêmement touffu, Motorhead In and Out, chez Hors Collection. Et alors Lucas, bon à ce moment-là, vous appartenez plus au groupe depuis longtemps. Alors je vais citer encore des paroles de la chanson qu'on a entendue. C'est nous l'équipe de tournée, encore un hôtel à cramer, encore une carte d'Europe à déchiffrer. En fait, c'est une vie dont vous vouliez pas, Lucas. Ça vous tentait pas, cette vie-là? Vous suiviez pas?
Si, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, depuis l'âge de 9 ans, j'en rêvais. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais batteur. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai suivi ma route. Et en effet, quand j'avais le groupe que je voulais quelque part, Motorhead. Et en effet, Là-dessus, on s'est retrouvé dans un genre de bad trip plutôt que good trip, des amphétamines qui finalement peuvent détruire. Non, ce qui est intéressant avec Lemmy, c'est que c'est quand même ses paroles. C'est un parolier hors pair que je souligne en rouge, que beaucoup de personnes passent à côté de ça, son intelligence et son humour. Et je souligne ça. Pour revenir à la question, oui et non, yain, comme on dit, en yain et nain, un mélange de normand peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Oui.
Quelque part, c'était pas nécessairement la tournée à tout pousser qui m'intéresse, qui m'intéressait et qui m'intéresse dans cette vie-là. C'est aussi enregistrer, oui. C'est aussi arranger, c'est aussi écrire, tout le bordel créatif.
Oui.
Donc c'est ce mélange de là. Et ce que j'adore dans We Are the Road Crew, qui est quand même l'ode au Roddy, hein.
C'est pas les musiciens.
Pas des musiciens là,
c'est des roadies. C'est des roadies, bien sûr.
Et écrit avec beaucoup d'humour en parlant de super glue et faisant super glue rimé avec road crew quand même.
C'est typiquement
Lemmy. Donc voilà, quelque part, c'était pas ça ce qui était le plus important pour moi. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de groupes avant, pendant et après.
Oui.
Et ma passion ne m'a jamais quitté. L'essentiel pour moi, c'est la passion. Quelque part, heureusement que je n'ai pas passé 40 ans sur la route en faisant des tournées, peut-être je ne serais pas là, probablement je ne serais pas là.
Oui.
Mais quand même, pour moi, ce qui motive tout, c'est le mot « passion ».
Oui, non mais ça je... Mais enfin, néanmoins, enfin, on a un ami commun qui m'a dit « Tu verras, Lucas, en fait, il est pas resté avec Modred parce qu'il voulait pas, il tenait pas les amphétamines ».
Oui, tenez pas les amphétamines à ce niveau-là, non,
oui,
absolument pas.
Oui.
Ouais, ouais. Non, juste trop fort et trop copieux.
Oui, d'accord. Alors on va écouter un des meilleurs titres de cette première période de Motorhead, où l'on sent encore l'influence d'un certain rock psychédélique, répétitif et hallucinatoire. C'est Too Late, Too Late, qui est paru en 79. C'était à l'origine de la face B d'un 45 tours, dont la face A était Overkill.
Thank you.
Too Late, Too Late. C'était Motorhead, un solo très psychédélique hein, du regretté guitariste Fast Eddie Clarke. Et puis le jeu de batterie puissant et comme félin hein, d'un autre disparu, Filthy Animal. Alors Lucas Fox, qui fut le premier batteur de Motorhead et qui est en face de moi dans ce studio, m'a dit une chose tout à fait intéressante que en fait j'ai pas souligné moi-même, c'est que la façon de chanter de l'ami entre 75 quand il chante Motorhead avec Hawkwind et ça qui est 5 ans plus tard, ça a complètement changé et vous dit je sais pourquoi. Alors pourquoi ?
Ah bah, là-dessus, c'est au début de Motorhead, donc quand on a commencé, une des choses que Lemmy voulait, et moi aussi d'ailleurs, tout au début, même avant de choisir le guitariste, qui n'était pas le premier choix, c'était pas Larry Wallace d'ailleurs, c'était Wayne Kramer, DMC5,
mais qui était en prison.
Qui était en prison. Bah oui, donc, j'ai eu l'échange de mails avec lui l'année dernière.
Deal de drogue, oui.
Absolument. Il est 3 ans. Mais en tout cas, là-dessus, on s'est retrouvés sur scène et on voulait être le plus volumineux du monde. Et on l'était quelque part. Mmh. Et un des groupes les plus sales du
bruyant,
monde.
Oui.
Bruyant, vraiment. Vraiment, côté volume, on était parmi les plus forts.
126 décibels.
Facile, voire le reste.
Et, le reste, oui.
Et donc, les retours, les fameux retours dans lesquels les baffles qu'on entend sur scène n'arrivaient pas à suivre. Donc, il était obligé quelque part de gueuler.
Pour
s'entendre.
Oui.
Et aussi pour être sûr qu'il arrivait à bon port quelque part. Et donc, il s'est mis à gueuler et c'est devenu un style qui les fans adoraient et ont adhéré à ça.
Oui.
Et quelque part, il s'est retrouvé avec cette voix complètement cassée à gueuler. Avant ça, il chantait. Ben, il avait une très belle voix.
Mais moi, je trouve qu'il a une belle voix et parfois, il chante. Après, il y a certains titres dans Motorhead où il chante davantage et c'est peu connu et c'est très réussi.
Absolument. Oui. Il est vraiment un genre de mélange entre Lennon et Elvis Costello, quelque part. Une très, très belle voix.
Oui.
Donc, quelque part, il s'est enfermé dans un cercueil, dans un certain son, avec le magnifique Filthy Taylor, qui a inventé un jeu de batterie qui n'existait pas au monde.
Comment tu le définirais ?
Bah, c'est comme un moteur de bombardier allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui fait baka 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 baka,
oui,
qui allait parfaitement avec la base de Lemmy.
Oui.
Et au-dessus, t'as Fast Eddie Clarke, et justement ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment très lié, point du son, avec Hendrix aussi.
Ah ben oui, parce que Lemmy a été roadie de Hendrix.
Pendant un moment.
Parce qu'il vivait dans un appartement avec Noel Redding, qui était le bassiste de l'Experience.
Exactement, et c'est, encore une fois, c'était par chance qu'il est devenu roadie de Hendrix, et roadie entre guillemets aussi, parce que c'était surtout le dealer d'acide de Hendrix.
On n'est pas totalement surpris. Alors, beaucoup disent qu'il fallait faire l'expérience de Motorhead sur scène, hein, 126 décibels à l'origine, disait-on. Je rappelle que la limite autorisée en France, hein, c'est 102, et que les enregistrements, en fait, en studio ne rendent pas justice à l'expérience que représentait le fait de voir et d'entendre le groupe sur scène. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que c'est probablement vrai, mais encore une fois, moi je dirais toujours, il y a deux versions d'une chanson. Il y a le live et il y a le studio.
Mm-hmm.
Et pour moi, j'adore ça. Et c'est une question, ce qui m'emmerde, si on peut le dire.
On a le droit.
Ce qui m'emmerde un peu avec beaucoup de groupes aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à trop entendre ce qu'on entend sur le disque, sur scène.
Oui.
Et moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'avant, on avait vraiment cette histoire de deux versions. Une version qui était vraiment léchée et puissante, etc. Tout ce qu'on voulait, avec tout le relief en studio. Et sur scène, c'était plus déchaîné, et pouvait continuer beaucoup plus longtemps un autre arrangement qui nous surprenait. Et ça me manque.
Oui, d'ailleurs, d'où la vogue des albums live dans les années 70 qu'on achetait en masse parce qu'on voulait savoir quelle était l'expérience, parce que les groupes tournaient moins en France. Enfin bon, c'est une autre histoire. Alors, j'ai été surpris de découvrir un titre qu'on va entendre, qui a été signé par Motorhead en 1990. Je ne sais pas si tu l'as en mémoire, qui s'appelle Deaf Forever, sourd à tout jamais. C'est extrait d'un album qui s'appelle Orgasmatron, qui a été réalisé par un très bon musicien lié à l'avant-garde musicale à New York, Bill Laswell. Il a été un collaborateur de David Byrne et Brian Eno, de Herbie Hancock aussi. Et il était vraiment à l'intersection du jazz, du funk, de la musique électronique expérimentale et aussi des musiques du monde entier. On l'écoute et on en reparle avec toi, Lucas.
Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
Et oui, l'émission tire à sa fin. On en vient d'entendre Death Forever de Motorhead. On en parlait avec Lucas Fox, qui a été le compagnon de route des débuts de Lemmy. C'est un son inattendu pour Motorhead.
Oui, c'est étonnant. Bill Laswell a vraiment trouvé un son différent là, dans la voix de Lemmy aussi, mais aussi dans tout ce qui est le backing tracks aussi. Non, intéressant, très intéressant.
Alors écoute, il nous reste un peu de temps, je voudrais qu'on parle de la personnalité de Lemmy, de son parcours. Alors je vais brièvement résumer, il était né en 1945, hein, le soir de Noël, il s'appelait Ian Kilmister, il était le fils d'un pasteur auprès de la Royal Air Force. Son père a disparu très vite après sa naissance, c'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont élevé dans la région de Stoke-on-Trent. Hein, et bien sa mère s'est remariée avec un ancien joueur de rugby, je crois, et puis ils sont installés dans une ferme sur la pointe nord-ouest du pays de Galles. Et alors, le surnom de Lemmy, c'était parce qu'il aurait dit « Lend me a quid till Friday ». Je ne sais pas si c'est vrai, cette histoire.
Moi, j'ai interviewé un de ses anciens groupes de Rocking Vickers. J'ai interviewé le chanteur et le guitariste que Lemmy a remplacé pour mon bouquin, comme 98 autres personnes que j'ai interviewées.
Oui.
Et justement, ils ont confirmé, Lend me a quid till Friday, c'était bien. Pourquoi il a été appelé Lemmy.
C'est ça, prête-moi une livre
jusqu'à vendredi.
Parce qu'il jouait aux machines à sous.
Et aussi le vendredi, c'était le jour de paye.
Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il a vu les Beatles à la caverne de Liverpool. Il a été marié extrêmement tôt. Il a eu un enfant à 17 ans qu'il a donné
pas marié.
Il n'était pas marié, oui. Enfin, il a eu un enfant naturel, oui. Bref, je voudrais te demander quelque chose parce que il y a cette histoire quand même de fascination pour les insignes nazis, la croix de fer qui n'était pas nazie, mais enfin bon, c'était l'armée allemande, sur sa basse. Cette fascination pour les côtés les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, d'où est-ce que ça lui venait ?
C'est un mélange. C'est-à-dire qu'une bonne partie des musiciens de l'époque, Brian Jones, Jimmy Page, Keith Moon, etc., tout le monde a été un peu fasciné par l'ennemi. Et c'était aussi parce qu'on était tellement bassiné par les héros que vient aussi l'histoire que En Angleterre, on était quasiment sûr de perdre en 1940, malgré ce que disait Churchill, « We'll fight them on the beaches » et tout ça. Avec tout ce qui s'est passé en Europe et qui est venu jusqu'à la Manche, on était quasiment sûr de perdre. Donc, à la fin de la guerre, il y a tel soulagement de n'avoir pas perdu et donc d'avoir gagné et donc devenir victorious, que quelque part, pendant des années après, inclus ma naissance et la naissance de Lemmy, on était vraiment bassinés par ces hero worship, les heroes.
Oui.
Et quelque part, on en avait marre. Et aussi, fascination, comme avec toutes les armées qui vainquent des autres, sont fascinées aussi par l'ennemi. Et donc, c'est toujours cette histoire de l'ennemi a toujours des uniformes plus sexy, quelque part.
Oui, ça. Alors, bon, dernière chose, après, on va écouter une dernière chanson. Si je te demandais si tu t'attendais à ce qu'il y ait une statue de 12 mètres de haut de Lemmy au Hellfest, évidemment, tu vas me dire non, pas du tout. Mais ma question, c'est qu'est-ce que ça te fait à toi aujourd'hui de savoir que cette statue existe?
Pour moi, grand respect parce que j'adore toujours ce bonhomme. Quelque part, il ne m'a jamais quitté. Il est dans mon sang. Il m'a énorme influence dans ma vie, inévitablement. Hein, donc, bon. que ce soit celui-là ou le nouveau qui vient d'être dévoilé où il est dans sa ville de naissance.
Ah ben, merveilleux. Bon, écoute, on parlait de héros. Ben, justement, ça tombe bien. Can't stop.